VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Rwanda, plus de 1500 Burundais installés pour la plupart de longue date en territoire rwandais ont été expulsés du pays depuis vendredi. Kigali les considérant comme des immigrés illégaux selon des sources officielles rwandaises et burundaises. Le gouvernement rwandais, qui entretient des relations glaciales avec son homologue du Burundi voisin, souligne que ces expulsions interviennent dans le cadre de contrôles réguliers et ne visent pas particulièrement les Burundais. Un officiel rwandais qui a tenu à garder l'anonymat a également déclaré à l'AFP que des milliers de Rwandais victimes de mauvais traitements avaient fui le Burundi depuis le début de la crise dans ce pays en avril 2015 et que les Rwandais en situation irrégulière au Burundi étaient systématiquement expulsés. Selon Philippe Ngabonziza, administrateur de la commune burundaise de Ntega, frontalière du Rwanda, 1320 Burundais expulsés par les autorités rwandaises sont arrivés dans sa localité entre vendredi et dimanche. 218 autres ont été accueillis pendant la même période dans la province burundaise voisine de Ngozi. En RDC, la cour d'appel de Lubumbashi dans le sud-est du pays a reporté aujourd'hui au 6 juin la réouverture du procès de 34 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide lors d'affrontements en 2013 entre leurs deux communautés. La cour a constaté l'absence des victimes et accordé 3 semaines pour leur acheminement à Lubumbashi, a déclaré la juge Makongo Lengue en soulignant que seules les victimes peuvent éclairer le tribunal dans sa quête de justice dans cette affaire. Depuis 2013, dans le nord du Katanga, les affrontements entre des combattants bantous de l'ethnie Luba et leur adversaire pygmé du sous-groupe Batwa ont souvent donné lieu à des tueries, pillages et incendies de villages ainsi que des déplacements de population, ce qui a conduit à l'inculpation en juillet 2014 de 34 bantous et pygmés pour crimes contre l'humanité et génocide. Et toujours en RDC, 3 plateformes d'opposition appellent à des manifestations dans tout le pays le 26 mai pour dénoncer un arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester au pouvoir à la fin de son mandat. La justice congolaise a en effet autorisé le chef de l'État à rester dans ses fonctions si la présidentielle n'est pas organisée avant la fin de son mandat le 19 décembre 2016. Et puis au Comores, c'est officiel depuis hier, l'ex-putschiste Azali Assoumani a été élu président selon les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
La Cour constitutionnelle a proclamé hier Azali Assoumani président de l'Union des Comores pour un mandat de 5 ans. Il a obtenu plus de 41% de voix et son rival Mohamed Ali Sohili, dit Mamadou, plus de 39% de suffrage. Azali Assoumani était arrivé légèrement à la tête du deuxième tour le 10 avril. Ce scrutin a été émaillé d'actes de violence. La justice comorienne avait donc ordonné la tenue d'une partie dans 13 bureaux et Assoumani a conforté son avance. Le camp de Mamadou a reconnu sa défaite. Le nouveau président sera investi le 26 mai. Cet officier de 57 ans va retrouver le palais présidentiel pour la seconde fois. Il y avait déjà vécu après un putsch en avril 1999, alors que le pays traversait une crise sécessionniste. Il était resté au pouvoir jusqu'en 2006 avant de le céder à Ahmed Abdallah Sambi. Ses détracteurs aiment rappeler qu'en 1995, lors d'un affrontement armé avec les mercenaires conduits par le français Bob Denard, Azali Assoumani avait abandonné ses hommes pour se réfugier à l'ambassade de France.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, l'armée a annoncé aujourd'hui avoir appréhendé plusieurs suspects en lien avec les attaques perpétrées récemment contre des installations pétrolières. Nous avons procédé à des arrestations ce week-end à proximité des lieux touchés par les récentes attaques dans le delta du Niger, dans le sud du pays, a déclaré à l'AFP une source militaire faisant partie de la force militaire conjointe et policière chargée de la sécurité dans la région. Un mouvement nommé les Vengeurs du Delta du Niger a revendiqué la récente explosion dans une plateforme gérée par le groupe pétrolier américain Chevron et une autre attaque contre des installations du groupe anglo-néerlandais Shell. La production quotidienne du Nigeria est passée de 1 900 000 à 1 700 000 barils par jour, soit son niveau le plus bas depuis 1994. Et toujours au Nigeria, les syndicats ont appelé à une grève illimitée mercredi pour protester contre l'augmentation soudaine du prix de l'essence à la pompe. Le point avec Idriss Fall.
Le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress ont donné au gouvernement jusqu'à demain mardi à minuit pour réviser entièrement la hausse du prix de l'essence. Ces puissantes centrales syndicales avertissent que le débrayage devrait affecter les banques, ports et aéroports, les marchés et administrations. Bref, menace d'une paralysie totale. Mercredi, Abuja a relevé les prix du carburant de 67%, passant de 86 à 145 naira. Une hausse vertigineuse après des mois de pénurie. Pendant des mois, il y avait de longues files d'attente devant les stations d'essence. Le pays manque de devises étrangères car subit de plein fouet la baisse des cours du pétrole qui fournit 70% des revenus. Le premier producteur de pétrole du continent est contraint d'importer son carburant pour maintenir un bas prix à la pompe. Le gouvernement paye une subvention. En janvier 2012, Abuja avait tenté de mettre fin à ces subventions. Il s'en était suivi de violentes manifestations qui avaient obligé le gouvernement à renoncer à la mesure.
Le dossier maintenant, Mali, il y a un an, le gouvernement de Bamako et les groupes armés, notamment dans le nord du pays, ont signé un accord de paix. Les groupes armés sont désormais plus actifs sur le front, mais ils n'ont toujours pas accepté le cantonnement de leurs hommes. Par ailleurs, les attaques terroristes se sont multipliées sur le territoire malien. Que pensent les Maliens du processus de paix? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Un an après la signature de l'accord pour la paix, les autorités maliennes ne désespèrent point. Elles souhaitent une lutte plus accrue contre le terrorisme. Modibo Keïta, premier ministre du Mali.
Personne ne peut prouver que les mouvements armés signataires de cet accord sont entrés en belligérance avec l'État du Mali, avec les FAMA, avec les populations. Cela est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation a permis d'isoler une autre frange qui ne vit qu'à travers la violence et qui ne s'attaque qu'aux populations. Et qui ne trouvent devant eux que le gouvernement et les mouvements armés et les populations. C'est quand même les djihadistes et les terroristes. Cela appelle une espèce d'union sacrée. Et cette union sacrée ne peut être l'œuvre d'aucun démembrement, mais de l'ensemble des démembrements.
Certes, la lutte contre le terrorisme doit être une priorité, mais les instruments qui doivent faciliter la mise en application de l'accord tardent à se mettre en place. Et la confiance entre les protagonistes de la crise est plus que précaire. Bruno Loma, journaliste.
Je pense que nous sommes presque à la case de départ. Le comité de suivi a eu du mal à s'installer et a du mal à travailler. Le cantonnement peine aussi à arriver. On avait fondé l'espoir sur l'entrée de la plateforme, notamment de Gatia à Kidal, et de l'accord signé entre la plateforme et la CEMA. On avait l'espoir donc que les choses allaient bouger, mais c'est toujours le statu quo. Et on avait surtout l'espoir qu'avec la tenue du forum de Kidal, les lignes allaient beaucoup plus bouger. Et jusque-là, on ne voit rien.
Seydou Koulibaly, étudiant à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Bamako.
Je peux dire que l'accord a été signé, mais l'objectif de l'accord n'a pas été atteint. Même le lendemain de l'accord, où il y a eu des attaques. Donc je peux dire de tous les jours aussi, il y a des attaques. Il y a des vies de pertes aussi. Donc je peux dire que l'objectif n'a pas été atteint. Si vraiment la communauté internationale peut veiller sur nous encore, ça ferait mieux vraiment. Sinon, l'objectif n'a pas été atteint.
Aujourd'hui, les ex-rebelles refusent toute question de cantonnement tant que les autorités intérimaires ne sont pas mises en place. Une loi a été adoptée dans ce sens, mais tarde à être concrète sur le terrain. Mohamed Ag Erlaf, ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État.
L'installation des autorités transitoires sur l'ensemble du pays pour pouvoir régler les cas particuliers et provisoires des régions du Nord. Avantage, nous allons mettre en place des collèges qui vont permettre d'abord le retour de l'administration d'État dans des zones qui n'ont pas été gérées depuis 4 ans. Avantage, ces autorités vont permettre le retour des réfugiés et des populations déplacées. Elles vont permettre la révision des listes électorales. Elles vont permettre une organisation sereine et inclusive des futurs échéances électorales. Elles vont permettre une participation plus grande sur le référendum constitutionnel que le gouvernement compte organiser.
De 2012 à nos jours, la crise malienne a fait plus de 1000 morts, civils et militaires. 80 casques bleus et une douzaine de soldats français ont aussi perdu la vie. Malgré la signature de l'accord, les attaques terroristes continuent sur le terrain et n'épargnent aucune force en présence au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et pour terminer, le conflit en Libye, des ministres des Affaires étrangères européens, leur homologue des pays voisins de la Libye et le secrétaire d'État américain John Kerry se réunissent aujourd'hui à Vienne en Autriche pour discuter du chaos qui règne dans le pays. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.